Nous l'avons entendu ce matin, et c'était vrai déjà par le passé, la question de savoir comment alimenter la commission féminine, comment les commissions féminines peuvent se maintenir, vivre. À mon point de vue, la difficulté réside surtout dans la masse du travail à réaliser. Et comme souvent, c'est une chose à la fois, c'est une question de choix, parce que la commission féminine, c'est la commission féminine du syndicat. Le syndicat, il a une activité. Est-ce que cette activité correspond complètement, totalement aux problèmes posés aux femmes de l'entreprise? Et est-ce que la commission féminine, sur chacun de ces problèmes, n'a pas à réfléchir, à suggérer pour que le syndicat prenne vraiment la dimension des objectifs syndicaux qu'il s'est fixés? Mais puisqu'aujourd'hui nous parlons de la grande question des salaires féminins, qui sont un aspect important de l'exploitation des femmes, eh bien nous pouvons dire que la commission féminine a de quoi faire pour rechercher justement où se nichent, comment sont masquées, parce qu'elles sont masquées très souvent, les discriminations des femmes, de manière à ce que nous soyons capables de lutter pour la revalorisation de la force de travail féminine. On met souvent en opposition l'activité générale et l'activité spécifique. On entend dire, on fait pas mal l'activité générale, on fait mal l'activité spécifique. Bien, dans une entreprise où il y a beaucoup de femmes, c'est pas vrai que l'activité générale est bonne s'il n'y a pas une recherche spécifique de l'exploitation dans cette entreprise, de tout ce qui pèse sur les femmes dans la vie hors travail. C'est donc bien là la question de la qualité de notre travail de masse qui est en cause. Et on a forcément une activité insuffisante parce qu'on base l'activité générale uniquement sur ce que l'on croit être, de ce qu'il y a de commun entre les intérêts féminins et masculins. Et ce n'est naturellement pas une bonne activité de masse, tout simplement. Bien entendu, l'égalité de salaire, de promotion, de formation professionnelle suppose pour être obtenue une politique de vaste progrès social, un largement de la vie démocratique, la reconnaissance de nouveaux et nombreux droits aux travailleurs et aux travailleuses, cela suppose de grands changements de société. Mais l'expression concrète, claire des revendications dès aujourd'hui peut permettre d'une part d'imposer des reculs au patronat et au pouvoir, mais elle prépare et favorise la construction d'une société nouvelle qui ne se fera pas, en effet, sans la participation des femmes. Et cette manière de procéder favorise la prise en compte des aspirations des travailleuses d'aujourd'hui, mais aussi pour demain. Parce que cette société nouvelle que nous voulons favorisera cela, mais personne n'apportera aux femmes sur un plateau l'égalité, l'émancipation, la libération. Il faudra encore et longtemps se battre pour y parvenir, dans des conditions différentes, mais se battre tout de même. Et dans ce domaine, les femmes continueront à jouer un rôle déterminant. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de mes propos dits tout à l'heure, ne pensez pas que nous voulions évacuer les questions de sexualité ou les problèmes familiaux de l'activité syndicale, bien au contraire. Dans une organisation syndicale comme la nôtre, dont le rôle essentiel est la défense de celles et ceux qui travaillent, la défense des revendications nées du travail en relation avec lui, ces questions seront traitées avec efficacité que si on leur donne leur dimension sociale, leur dimension de classe et leur impact sur la vie des travailleuses. Il me semble que l'importance des progrès scientifiques réalisés, permettant notamment la maîtrise de la fécondité, n'a pas été encore pleinement perçue. C'est sans doute trop tôt. Et surtout du point de vue de la psychologie féminine, de leur conscience. Voilà que la maternité peut ne plus être une fatalité de destin pour les femmes. C'est énorme. Le fait que la contraception puisse être féminine permet aux femmes un regard sur leur vie tout autre que celui des plus anciennes générations. Cette contraception féminine élimine aussi un élément important de la domination masculine dont il a été parlé ici. Voilà que la connaissance des besoins du jeune enfant commence à aboutir à l'idée que dès le plus jeune âge, l'enfant a un besoin de socialisation qui ne peut être satisfait dans le cadre de la famille réduite actuelle. Par ailleurs, les progrès techniques permettent aussi de réduire considérablement l'utilisation de la force musculaire, c'est à l'avantage des femmes. Mais alors, il ne faut pas s'étonner dans ces conditions de cette remise en cause qui est en train de devenir massive de la situation imposée aux femmes simultanément aux possibilités de changements socio-démocratiques offertes aujourd'hui. La grande question qui est posée est de mettre au service de l'épanouissement humain, de l'émancipation féminine, de l'émancipation ouvrière, tous les progrès techniques et scientifiques. Et pour cela, nous savons, il faut changer le système social, avoir une société dont la finalité est la satisfaction des besoins humains. Nous soutenons le programme commun parce que son application peut permettre d'aller dans ce sens. Est la condition, est la mobilisation des travailleuses et des travailleurs sur leurs objectifs de classe. Et lorsque je parle d'objectifs de classe, je ne parle pas seulement des questions qui seraient uniquement communes aux hommes et aux femmes, mais toutes les questions qui préoccupent, qui sont l'affaire des femmes et qui deviennent de plus en plus l'affaire de tous et qui doivent devenir l'affaire de tous. C'est pour cela aussi, parce que nous avons cette orientation, que nous considérons que c'est à la CGT que les travailleuses doivent et peuvent trouver les moyens de défendre leurs intérêts et de faire converger leurs intérêts de femmes et de travailleuses. Nous l'avions dit dans le document préparatoire à la 6e conférence, la lutte pour l'égalité, l'émancipation, la libération et la lutte commune des travailleurs sur leurs intérêts communs ne sont-elles pas deux volets d'une même lutte de classe? Le droit qu'a chacune et chacun des adhérents de la CGT d'adhérer à l'association, au groupement, au parti politique de son choix est assuré. Cela ne nous dispense pas d'intervenir lorsque des organisations ont des orientations qui nous apparaissent contraires aux intérêts des travailleurs, aux intérêts des travailleuses, ou des orientations qui éloignent les travailleuses de la vie syndicale. Dans l'entreprise, lieu privilégié de l'action de classe, l'intérêt des travailleuses, de toutes les travailleuses, est de participer à l'activité, à l'action syndicale. La défense de leurs revendications relève de la compétence syndicale dans l'entreprise. Tout ce qui peut distraire les travailleuses de cet objectif comporte des aspects très négatifs sur lesquels nous ne pouvons pas rester muets chaque fois que se manifeste le cas. Et la condition pour que les travailleuses trouvent toute leur place dans la CGT, certes, il y a des obstacles qui sont communs aux travailleurs des deux sexes, mais il faut qu'aussi elles sachent que dans la CGT, elles pourront y exprimer toutes leurs aspirations et que ces aspirations seront prises en compte par le syndicat. Et c'est bien la question qui est débattue. Sur la syndicalisation, il y a été donné ce matin de bons exemples. Nous pouvons faire mieux. Lorsque nous regardons le matériel de propagande qui est distribué très souvent dans des entreprises, lorsqu'on veut y faire une opération carte en main, comme on appelle dans notre jargon, on s'aperçoit que trop souvent, les arguments donnés dans une entreprise où il y a des femmes sont des arguments totalement et en tout point identique aux arguments dans une entreprise masculine. Est-ce que là nous n'avons pas à réfléchir? Si les travailleuses sont parmi les plus exploitées, est-ce qu'elles n'ont pas encore plus de raison que les hommes de se syndiquer, de s'organiser dans la CGT pour mieux combattre cette exploitation? Est-ce que là nous n'avons pas tout un champ de réflexion justement pour améliorer notre propagande et pour permettre aux femmes de se reconnaître totalement dans l'activité et dans les luttes de la CGT? Un mot aussi sur l'image que donne la CGT dans les manifestations. C'est sous les banderoles de la CGT que sont regroupés, et de loin, le plus grand nombre de travailleuses. Mais elles n'expriment pas ou elles expriment mal leurs revendications, leurs aspirations. Ça, c'est pas normal. Je dois dire qu'il y a un écho général qui ne concerne pas que les femmes. D'une manière générale, nous négligeons dans les manifestations l'image que nous donnons de nous. Mais cela dépend de nous avant tout et essentiellement que cela change. Y compris le 24 mai, pourtant il y avait eu déjà la conférence nationale où des questions ont été largement débattues sur les femmes. Eh bien, le 24 mai, nous ne sommes pas encore parvenus dans l'ensemble, parce que les syndicats où il y a beaucoup de femmes, les femmes expriment leurs aspirations dans les banderoles, dans les pancartes. Nous avons eu, par exemple, énormément de mal pour faire diffuser en trois mètres. À quoi ça tient? Ça tient à nous. Et je crois que nous sommes, certainement, il y a des obstacles à vaincre dans les syndicats, mais nous sommes dans les syndicats suffisamment nombreuses comme militants pour permettre que cela change et que nous nous exprimions mieux. L'image, de façon générale, que nous donnons à l'extérieur est mauvaise et pas fidèle à ce que nous sommes vraiment, parce qu'en effet, si nous avons des défauts à combattre, on en a largement parlé encore aujourd'hui à la 6e conférence, nous avons à côté de cela un acquis considérable à faire valoir, et je crois que c'est grâce à cet acquis, et c'est grâce à l'expérience déjà longue de la TVT de son activité en direction des femmes, que nous avons pu poser, et les femmes ont pu poser aussi largement les problèmes qu'elles ont exposés ici ou à la 6e conférence nationale de la CGT. Ça n'est pas par hasard que ça ne se soit pas passé à la Fédération d'éducation nationale, pourtant 80% d'institutrices. Ça n'est pas par hasard que ça ne soit pas passé à Porte-Ouvrière, ni même à la CFDT, mais c'est précisément parce que les travailleuses qui sont à la CGT savent qu'il y a une préoccupation, mais qu'ils considèrent que dans la vie pratique, dans les syndicats, cette préoccupation est encore insuffisante et il faut permettre davantage à ce que les femmes expriment ce qu'elles ont à exprimer, et que le contenu d'activité syndicale en tienne mieux compte. Je vous ai allusion tout à l'heure à Antoinette dans les manifestations. Notre journal progresse lentement mais sûrement, mais il est loin de correspondre dans sa diffusion à ce que nous sommes capables de diffuser aujourd'hui. Là encore, si c'est vrai tout ce que nous disons par rapport au changement opéré chez les travailleuses, il y a une possibilité de développer la diffusion, mais à un point jamais connu, une possibilité énorme qui n'est pas encore exploitée. La camarade l'a dit, dans cette enquête qui date maintenant depuis 2 ans, mais ça ne doit pas être beaucoup modifié, sur 2000 travailleuses interrogées, 1500 ne connaissaient pas l'existence d'Antoinette. Je crois que c'est un problème, et lorsque nous avons donné comme objectif de créer des postes de diffusion dans toutes les entreprises, dans tous les syndicats d'entreprises où des femmes travaillaient, je crois qu'il faut prendre ça sérieusement en considération, et à mon point de vue, est sous-estimer la diffusion d'Antoinette, parce que sont encore sous-estimés dans l'organisation les problèmes féminins. Il me semble que ça va tout à fait de pair. Or, si on veut mener une activité spécifique correcte, ou avoir une activité et avoir une activité générale qui tienne compte des aspects féminins des revendications, eh bien, on s'apercevra vite qu'on ne peut pas se dispenser de diffuser le journal féminin de la CGT qui aborde énormément de questions, je dirais même de questions que la vie courante syndicale a du mal à aborder. Mais il me semble que s'il y a une sous-estimation des syndicats, là encore, nous sommes suffisamment de militants à la CGT pour donner à la diffusion de notre journal, eh bien, un essor beaucoup plus considérable. Je voudrais vous dire, pour en terminer, vous voyez qu'il n'est pas question de répondre à tout ce qui a été soulevé, que nous avons discuté au Bureau confédéral de la 6e conférence nationale. On en tire les premiers enseignements dans un prochain peuple, ma décision a été prise de réunir à la rentrée une commission exécutive de la CGT, qui est son organisme dirigeant, pour parler de l'orientation de l'activité de la CGT parmi les travailleurs et sur la base d'un document écrit. Ça prouve tout l'intérêt que la CGT accorde aux travaux de cette 6e conférence. Et bien entendu, ce document adopté par la commission exécutive de la CGT sera mis à la portée et à la connaissance de tous les syndicats pour qu'ils en fassent le meilleur usage. Nous avons pris une autre décision, celle d'éditer un livre à partir des travaux de la conférence. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour que ce livre traduise le plus fidèlement possible tout ce qui s'est passé à la conférence. Cela nous paraît utile à bien des égards. Nous pensons que c'est une conférence qui fera date et qui fera date à l'honneur de la CGT. Nous pensons aussi qu'il est utile de relire l'ensemble des travaux et des interventions parce que nous nous apercevons que souvent la mémoire est sélective. Et on entend dire aujourd'hui, je ne considère pas ça anormal, il y a des traductions très diverses, très différenciées, très partielles et très partielles de la conférence. Il me semble qu'en s'en se référant aux travaux eux-mêmes, nous verrons d'ailleurs mieux quelle est toute la richesse de ces travaux et ce qu'il y a à en déduire comme orientation de travail. Mais il me semble en effet que nous devons continuer à discuter de cela dans les instances de direction des syndicats, mais bien entendu, la discussion a pour objectif l'activité et l'action. Or, de grandes luttes encore nous attendent. Un des objectifs de la conférence était d'enrichir le contenu des luttes syndicales, d'enrichir le contenu des luttes des travailleuses, qui se battent certes au même titre que les travailleurs, mais se battent seulement au même titre que les travailleurs n'est pas suffisant, en ce sens que ces luttes ne contiennent pas suffisamment toutes les particularités de l'exploitation du travail féminin. Et mon souhait serait que, après ces assises sur les bas salaires féminins, sur les discriminations, on n'arrête pas ce soir la discussion du sujet, mais que vraiment dans les syndicats, on examine si nous sommes à jour sur ces questions pour engager la bataille. La bataille pour la défense du pouvoir d'achat continuera, reprendra à la rentrée des vacances. Eh bien, notre 6e conférence aura vraiment été réussie si nous commençons à voir que les luttes sont porteuses de toutes les revendications qui permettent d'éliminer les discriminations dont les femmes sont victimes. Je vous remercie.
De l'Assemblée sur l'intervention de Christiane Gilles, et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en dire davantage. Ce qui est un peu regrettable, c'est que de nombreuses camarades avaient demandé à intervenir et nous ne pourrons pas les entendre faute de temps. Nous leur demandons, si elles avaient préparé des interventions écrites, de les déposer à la tribune, ainsi que des interventions de ceux qui ont pu être entendus. Sans allonger trop longtemps les débats, je passe la parole à Gérard Bazard qui a une communication à nous faire.
Qu'est-ce qui m'a fait simplement une minute d'attention, parce qu'il me semble que l'occasion d'avoir cette assemblée avec autant de responsables justifie bien que nous donnions une information. Nous avons vécu la semaine dernière des événements tragiques, ceux de Reims et de l'assassinat de Pierre Maître, et en liaison avec ces événements, un mouvement qui s'est développé, traduisant la profonde émotion dans l'ensemble des entreprises, l'unanimité du monde du travail pour condamner cet assassinat, mais au-delà de cette profonde émotion aussi, une conscience qui s'est caractérisée, concrétisée dans le mouvement de mardi dernier, mais également lors des obsèques qui ont eu lieu vendredi dernier, une conscience et une réprobation de masse sur les agissements de la CFT et au-delà des responsabilités du grand patronat et du gouvernement. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé que, compte tenu aussi de l'émotion qui s'est exprimée à Paris dans les entreprises sous diverses formes, il nous apparaissait indispensable de prendre un certain nombre de mesures pour s'appuyer sur cette manifestation diversifiée dans les entreprises et la concrétiser au maximum en l'enracinant dans les entreprises et dans les professions. Le bureau de l'Union syndicale de la région parisienne qui s'est réuni ce matin a examiné les modalités qui pourraient être données de ce point de vue. L'idée qui est retenue, sans que toutes les modalités soient encore bien précisées, c'est d'une part l'édition d'un tract de masse régionale, région parisienne, stigmatisant la nature de cette officine qu'est la CFT et exigeant sa dissolution, celle des milices patronales et dénonçant les responsabilités du gouvernement et du patronat, s'adressant au Premier ministre pour exiger tout de suite les mesures nécessaires à cet égard, et par conséquent, en liaison avec la diffusion des tracts, nous préconisons que soient examinés tout de suite les moyens nécessaires pour faire s'exprimer, sous les formes les plus multiples, l'opinion des travailleurs et des travailleuses de Paris en ce qui concerne cette exigence et les possibilités de la CGT. Alors ce que nous proposons, c'est que dès maintenant, chaque organisation examine dès demain, je pense que demain déjà, certains nombres d'informations seront rendues publiques, que dès demain on examine dans chaque entreprise les conditions les mieux adaptées pour que tout de suite les explications de la CGT, qui je le rappelle, a été au premier rang de cette dénonciation et de cette action contre la CFT et contre ses ministres patronales, qui d'ailleurs s'est exprimée notamment au travers du livre de Marcel Caille, Les truands du patronat. Nous avons là toute une série d'argumentations qu'il nous faut donner pour dépasser le stade de l'émotion immédiate et passer à un stade plus important concernant la dénonciation et les exigences de la dissolution de la CFT. Je propose donc que vous examiniez dès demain matin les moyens à mettre en œuvre de ce point de vue. Il est vraisemblable que dans la journée de demain ou lundi, puisque le tract sera disponible dès lundi, dans les unions locales probablement, qu'à partir de lundi, nous donnions des modalités plus concrètes pour la journée de, je ne sais pas encore si c'est de délégation ou de rassemblement en direction du Premier ministre, le 29 juin après-midi. La date qui a été retenue, il nous reste encore à préciser la fin. Voilà, je vous remercie de votre attention.